Jonathan, maintenant nous allons discuter de la deuxième question qui est en fait reliée au modèle dominant dans ton domaine quand tu es arrivé dans la science. Donc, quels étaient les modèles en cours? Comment tu as contribué à ces modèles? Est-ce que tu as adhéré au modèle dominant? Est-ce qu'au contraire, tes travaux t'ont amené à prendre une position à l'encontre des modèles dominants ou peut-être une position intermédiaire? Et comment est-ce que cette vision de la science a évolué au cours de ta carrière?
Très bien. Tout à fait au départ, donc pendant mes études en Angleterre, donc il y avait des modèles mathématiques qui étaient importants, de Broadbent et même Morton, etc. Mais après, quand j'ai commencé un peu plus tard, donc ça c'est les modèles des années 60, 70, et après, ce qui a vraiment été la révolution pour moi, et c'était juste au moment où j'ai commencé ma thèse, c'était le modèle d'activation interactive de McClelland et Rumelhart. Donc le début de, c'est pas tout à fait le début du connexionnisme parce que ça existait avant, mais appliqué à l'étude du mot écrit, c'était génial. Je veux dire, c'est vraiment le modèle qui a eu le plus d'influence dans tout ce que j'ai fait de très très loin.
Et donc, tes travaux de thèse ont été inspirés par les travaux de McClelland et Rumelhart?
Absolument, j'ai proposé à la fin de ma thèse, donc au départ, bon, c'était que des expériences pour tester des hypothèses assez générales, mais à la fin, j'ai proposé un modèle de bilingue, une version bilingue du modèle d'activation interactive. Donc, c'était ça l'aboutissement de ma thèse. C'est que, et à l'époque, le débat, c'était modèle modulariste, séquentiel, versus parallèle, activation interactive. Et toutes mes données montraient que c'était forcément activation interactive qui marchait. Donc c'était ça les conclusions les plus fortes de la thèse. Et après, après, on a publié des choses avec des collègues, on a un modèle. Bilingual Interactive Activation qui a eu beaucoup de succès et qui continue à fonctionner bien, ouais, à être bien, à pas mal d'impact aujourd'hui. Donc là, oui, ça c'est vraiment le modèle qui a eu le plus d'influence et ça continue à avoir beaucoup d'influence. On s'inspire. Là, à l'époque, c'était que sur les lettres et les mots, du trait visuel, lettres et les mots. Maintenant, on applique exactement les mêmes principes de traitement donc, au niveau des mots et des phrases. Donc, on est allé, ça c'était la dernière bourse ERC, c'était focalisé là-dessus. Mais après, il y a eu des changements. Il y a eu le modèle PDP dans les milieux des années 80. Donc, c'est toujours du connexionnisme, mais représentation distribuée. Et encore plus récemment, tout ce qui est. Donc, ça, c'est apprentissage par backpropagation. Et après, il y a tout le développement récent de deep learning. Donc, et c'est de l'apprentissage, en fait. Et je pense que c'est important ce qu'ils font pour mieux apprendre, pour avoir un différent point de vue sur les mécanismes d'apprentissage. Mais
Mais
pour
même
moi.
si on dit souvent qu'avec deep learning, on ne comprend pas vraiment ce que font les
Là.
modèles, qu'est-ce que tu penses de ça d'ailleurs?
Ah,
Parce
mais je
que
suis totalement
c'est une
d'accord.
critique qu'on fait
Ouais,
souvent.
j'ai fait cette critique moi-même. Oui, non,
En gros, ça marche, mais on ne sait pas pourquoi ça marche.
on a fait un livre, on a publié un livre, enfin, une collection de chapitres avec Arthur Jacobs, publié en, je sais pas quelle année, c'était dans les années 90, qui était une critique de cette approche backprop où on comprenait rien, c'était une boîte noire en fait. Donc ça marchait, mais on ne savait pas pourquoi en fait.
Est-ce que tu as l'impression que ça a progressé? Parce que toi, tu es vraiment un spécialiste du domaine quand même. Et donc, est-ce que tu vois une évolution? Est-ce que
L'évolution, c'est vrai que je ne suis plus tellement dans... Moi, j'ai continué à faire cette modélisation, je veux dire, maintenant traditionnelle. Ce n'était pas du tout traditionnel à l'époque, donc de type, comme on dit, connexionnisme localiste. Donc, moi, j'ai continué dans cette voie-là. Dans tout ce qui est apprentissage, oui, avec les réseaux profonds, convolutionnels. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de... Bon, il y a deux choses. Ça peut être utilisé comme technique d'analyse de données. Ça, c'est très puissant. Donc, mais c'est que pour l'analyse de données, en fait. Mais ça, c'était avec un postdoc qui travaille avec moi. Après, on peut faire apprendre ces réseaux et faire un peu et tester... Donc, y a des unités de traitement de l'information, enfin des nœuds dans ces réseaux, qu'on peut ensuite sonder. Et quand on fait cette approche-là, on peut mieux comprendre qu'est-ce que le réseau a appris et qu'est-ce qu'il est capable de faire, et comment il fait en fait. Donc en faisant comme single cell recording. Donc, ils ont adopté ça de recherche... sur le singe, etc. Donc,
d'accord.
Il y a des choses. Moi, je ne suis pas contre ça. Il y a des choses à gagner dans ces différentes approches. Mais moi, personnellement, je suis resté dans cette approche localiste.
Justement, je voulais te demander, est-ce que tu peux définir un peu mieux qu'est-ce que tu appelles le connexionnisme localiste?
C'est très simple. C'est que au lieu d'avoir des représentations distribuées, donc, pour une lettre qui est représentée par une centaine d'unités, là, c'est une lettre, une unité. Et en fait, après, un mot, une unité qui est liée à toutes les lettres qui sont compatibles, et un mot à une phrase, etc. Donc, ça simplifie énormément la compréhension du fonctionnement du modèle. C'est sûrement pas la réalité. Mais c'est une bonne simplification, en fait, je pense. Et ce qui est important, je pense, c'est peut-être un faux débat entre localiste et distribué. C'est que ce qui est important, c'est qu'on partage le même avis qu'il y a un traitement parallèle, un traitement en cascade, c'est-à-dire qu'on n'attend pas à ce qu'on termine, comme les modèles modularistes, on termine le traitement à un niveau avant de commencer un deuxième, c'est en cascade, et interactivité, il y a du feedback. Donc ça, c'est des principes les plus importants.
Je pense que ça, c'est vraiment un point important, et du coup, cela signifie que dès le départ, quand tu as commencé tes travaux de thèse, tu t'es d'une certaine manière élevé contre les modèles séquentiels, hiérarchiques, modularistes. Absolument. Et donc, quelle est ta position? Ça a toujours été comme ça. Toute ta carrière, tu as d'une certaine manière combattu cette vision qui était quand même dominante à une époque. Et qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'elle est toujours dominante? Est-ce qu'elle a complètement perdu du terrain?
Je pense que la position modulariste a quasiment disparu, oui. Oui, ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de temps. Et savoir que, je disais toute l'admiration que j'ai pour Juan Seguí, mais c'était un modulariste.
Oui,
Il était élevé avec Mailer, avec Levelt, Max Planck.
Exactement, et comment tu as fait pour... c'est vraiment incroyable que tu aies survécu au sein de ces modularistes qui étaient extrêmement forts quand même.
Ça, c'est le bon côté de Juan, il acceptait, il aimait bien le débat.
Oui.
Il était pas... Ça, c'est bien, et même avec les gens, quelqu'un que j'admire beaucoup aussi, Ken Forster.
Oui.
Forster était dur, comme vraiment pur et dur modulariste, mais on discutait bien, on s'énervait pas. C'était une bonne discussion, toujours, et on est resté amis, et jamais sans problème.
Et personne n'a changé d'avis.
Non, je crois. Je sais pas pour eux, je sais pas. Moi, non. Non.
Très bien. J'avais encore une question sur un des comment dire un des traits qui te caractérise et qui est vraiment rare, c'est quand même d'avoir eu deux bourses ERC. Oui. Pour avoir siégé dans les comités, je sais que c'est très difficile. Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer, d'une part, quel était le but de la première ? Tu vois, scientifiquement, quel était l'objectif ? À quelles questions tu voulais répondre dans le premier ERC ? Et quel est le lien avec le deuxième ? Et comment tu as convaincu des gens qui t'avaient déjà donné une somme d'argent considérable de t'en donner une deuxième pour continuer à travailler ?
Bon, le but de la première demande, c'était le pognon. C'était d'avoir de l'argent. C'est de pouvoir faire la recherche comme je voulais. Non, c'était... j'étais dans une... C'était compliqué parce que quand on m'a présenté, moi, c'était la première demande ERC Advanced. Donc, je faisais partie des premiers gens qui me posaient. Et puis, la description qu'ils mettaient sur leur site, je me disais, oh, c'était impossible. Je ne peux pas candidater pour ça. Je ne peux pas. Il faut avoir plusieurs livres traduits dans plusieurs langues, etc. Non, c'était n'importe quoi. C'était pour les Dehan et d'autres, etc. Mais pas pour moi. Et après, j'ai commencé à réfléchir, à dire, mais bah, qui va postuler pour ça ? Avec qui je vais être en compétition ? Et donc, j'ai commencé à mesurer, à dire, ah, quand même, peut-être que j'ai une petite chance. J'avais envie de développer la recherche que j'avais, enfin tout un courant de recherche que j'avais développé depuis quelques années sur ce que j'appelais déjà le codage orthographique en fait. Donc oui. On était déjà lancé sur ces histoires de lettres transposées, etc., qui avaient attiré pas mal l'attention du public général. Donc on était quand même sur une thématique qui pouvait séduire.
Tout à fait, qui était, donc, oui, oui, qui était grand donc, public.
Exactement, donc je dis, oui, il faut y aller. Je suis, non, pour être honnête, j'étais sur la liste d'attente. Donc je n'ai pas eu d'un coup, et après ils ont eu une rallonge budgétaire, donc je suis passé dans un trou de souris.
donc c'était vraiment centré sur le code orthographique, et alors là la question qui tue, est-ce que tu penses que grâce à cette ERC tu as fait vraiment des progrès dans la compréhension du codage orthographique?
Bah, c'est-à-dire que ça nous a permis de développer un modèle très spécifique. C'est peut-être pas le bon modèle, mais bon, on a quand même pas mal de données qui suggèrent. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cette approche-là, parce que c'est un petit peu bizarre. C'est le codage par ce qu'on appelle les bigrammes ouverts, où lorsqu'on lit un mot comme table, alors la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait qu'il y a le T devant le A, devant le B, devant le L, devant le E. Quel est le mécanisme pour coder l'ordre des lettres ? Parce qu'il faut ça. On sait qu'on lit à travers les lettres individuelles. Ça, on savait. Donc, ça, c'était déjà fait. Maintenant, il faut l'identité des lettres. Il faut l'ordre des lettres. Comment on code l'ordre des lettres ? Et donc, on peut le faire à un système complètement ordinal. T1, A2, B3... Mais il y a beaucoup de données qui suggèrent que ce n'est pas comme ça. Donc, c'est ça qui m'a motivé à chercher une autre solution, ou en fait, beaucoup plus flexible, où en fait, quand on lit table, on voit qu'il y a un T devant A, mais aussi on voit qu'il y a un T devant B. Donc, pas forcément. Et on enregistre cette information-là. Et c'est l'ensemble de ces informations de paires de lettres. Pas forcément des bigrammes, ça peut être des trigrammes, mais bon, on est resté sur les bigrammes. Cette information sur le fait que dans table, il y a T suivi de A, il y a T suivi de B, etc., qui permettent, et ça, on ne donne pas d'ordre. Là, on dit, il y a T avant A, il y a T avant B, mais bon, on ne sait pas dans quel ordre. Ça, on n'a pas besoin de mettre l'ordre. À partir de ces informations-là, on a l'ordre des lettres. Et ça colle bien avec toutes les données empiriques qu'on avait. Donc, c'est ça. Et bon, c'est encore très débattu aujourd'hui. C'est pas,
donc, d'une certaine manière, ta recherche a consisté toujours à avoir un côté modèle, formel, mathématique, et un côté expérimental pour tester les prédictions
absolument,
du modèle.
Absolument, toujours, oui, toujours. Et là, c'était même pas, même si on a formalisé ce modèle, on n'avait même pas besoin de le formaliser. Sur le plan conceptuel, ça suffisait. En fait, ça faisait des prédictions. Donc, on n'a pas toujours besoin d'un modèle mathématique pour faire des prédictions. On peut, si on a un bon modèle fort conceptuel, ça suffit. Mm-hmm. Ça fait des, tant que ça donne des bonnes prédictions précises. Et,
tout à fait. Et donc, du coup, pour continuer la logique, grâce à ce premier ERC, tu as développé un modèle et acquis énormément de données expérimentales qui t'ont permis de mieux comprendre le codage orthographique.
Ouais.
Et parce que tu avais mieux compris le codage orthographique, tu as proposé un deuxième ERC qui avait quel objectif et comment tu as fait pour convaincre les gens de te donner encore
C'était un changement de dimension. On est passé de l'interaction lettre-mot ou avec le codage bigramme, etc., au mot-phrase, en fait. Donc, c'était un changement de direction. Et puis, c'était parce que le modèle dominant de la lecture à cette époque et encore aujourd'hui, c'était un modèle de lecture séquentielle, sérielle, donc de Keith Rayner. Keith Rayner qui a largement dominé les débats sur la nature de la lecture. Et là, on parle essentiellement de lecture de phrases. Après, lecture de texte, il y a autre chose, autre facteur qui entre. Là, c'est vraiment juste lecture de phrases. Et pour Keith Rayner, c'était mot à mot. Et quand on regarde comment les yeux bougent lorsqu'on lit une phrase, on voit effectivement que les yeux bougent à peu près d'un mot à un autre. On se tourne de temps en temps un mot et en revenant, mais grosso modo, c'est un mot à la fois. Donc, les mouvements oculaires suggèrent qu'effectivement, lorsqu'on lit une phrase, on fait du mot à mot séquentiel. Et son modèle fait ça. Et nous, on s'est dit que les mouvements oculaires, d'abord, c'est peut-être pas la meilleure façon de comprendre ce qui se passe lorsqu'on lit, parce que c'est que des mouvements oculaires. Il y a plein d'autres choses qui se passent dans le cerveau. Et puis, on s'est dit que quand même, pour être un lecteur expert, pour aller plus vite, on a intérêt à pouvoir faire plus d'un mot à la fois. Et donc, l'hypothèse forte, c'était un traitement de plus d'un mot, pas complètement parallèle, bien sûr, il y a des limites d'acuité visuelle, etc. Mais au moins, pouvoir dire que le lecteur expert, il regarde un mot, mais il est aussi en train de traiter quand même en parallèle d'autres mots. On voulait comprendre comment il pouvait faire ça et trouver des données, mettre à l'épreuve cette hypothèse en fait forte d'une lecture parallèle. On n'était pas les premiers. Il y a l'équipe allemande de Kliegel et Campier qui avait déjà à Potsdam qui avait déjà proposé un modèle plus parallèle. Mais la différence ici, c'est que le cœur de le point de départ de ce projet, c'était un modèle qui a été implémenté par la suite. C'est un modèle computationnel qui utilise les bigrammes, donc tout ce qu'on a fait avant sur le mot, et qui active des mots en parallèle. Et ensuite, la dernière étape, c'est l'encodage de l'identité des mots dans le bon ordre. Donc, c'est les mêmes questions au niveau lettre-mot, poser maintenant au mot phrase. Exactement la même question.
Oui, mais il y a tout de même un aspect incrémentiel qui est notable, si tu veux, et qui a beaucoup, probablement beaucoup intéressé les gens. Parce que si tu t'intéresses à la lecture et que tu restes au niveau du mot, c'est quand même assez réductionniste,
absolument,
on va dire.
Absolument.
Et ça, c'est un débat qu'on a eu il y a de nombreuses années, en tout cas avec Arthur Jacobs, avec lequel j'ai eu des discussions animées, pour le moins. Parce que voilà, quand même, dans la lecture, tu lis des phrases et des paragraphes.
Oui,
ce qui est important,
prochaine étape, prochaine avancée, c'est le paragraphe.
La sémantique.
Allez, la sémantique, on va y arriver.
La sémantique, peut-être un jour.
Non, mon point de vue personnel, et je pense qu'Arthur Jacob sera d'accord avec moi, il faut toujours commencer avec des questions simples et on essaie de... Là où on a une toute petite chance de pouvoir y répondre, et c'est pour ça, donc, c'est ça l'idée. Et j'ai même, avec Arthur notamment, travaillé sur les lettres isolées aussi. J'ai pas mal de papiers sur juste identification des lettres, quand même.
Oui, tout à fait, je connais.
Mais bon.
Je ne sais pas, Vincent, tu veux rajouter quelque chose? Tu veux... Il y a une question qui te...
Non, moi, ça me passionne de vous entendre tous les deux. C'est un domaine que je ne connais pas du tout. Mais c'est vrai que c'est très surprenant, effectivement, d'appréhender la lecture avec, finalement, une approche hyper réductionniste en partant de la lettre pour, finalement, aboutir... Alors, de ce que j'ai compris, finalement, les mécanismes sont relativement similaires entre les lettres dans le mot et les mots dans la phrase.
Absolument, absolument. On retrouve les mêmes mécanismes. Mais enfin, moi je dis ça. Et toujours dans le cadre d'un modèle de type activation interactive. On applique exactement les mêmes mécanismes pour expliquer.
Tu es très fidèle, Jonathan,
finalement.
Ah oui,
je suis. Ah oui.